Nous sommes en direct des studios de Radio Galaxy et je suis en compagnie de notre baroudeur Christian Caillol qui va nous présenter une nouvelle destination en France. Bonjour Christian.
Bonjour Francis, bonjour à tous.
Alors on bouge, mais on bouge en France. Et où tu nous amènes?
Alors oui, effectivement, on bouge en France bien sûr, comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Et cette fois je vous emmène en terre gardoise, non loin de la vallée du Rhône, pour découvrir nombreux vestiges gallo-romains, médiévaux, et puis pour flâner aussi dans de superbes villages perchés, aux ruelles que j'ai retenues et dénommées Rompe-cul, Esquiche-coude, ça fait rigoler, c'est sympa, et voilà, et puis un carrefour de paysages, de senteurs et de climats qui changent au fil des saisons. Et pourquoi ce titre? Je me pose la question et je vais répondre.
Oui, parce qu'on n'a pas parlé du titre.
Voilà, le titre, Drôle de Rhône.
Pourquoi
ce titre?
Oui.
Je pensais trouver en allant là, début d'année, trouver davantage de chaleur dans cette région, en principe, qui nous apporte le soleil. En général, inondée de soleil et qui nous soit noyée de pluie. Et seulement quelques rares éclaircies, trop rares éclaircies, nous ont permis de glaner quelques images. Alors, drôle de temps, drôle de Rhône.
On est d'accord. Voilà. D'ailleurs, on voit des inondations plus ou moins, non? Ou les rivières en grue, me semble, dans
oui,
ce film.
Oui, bien sûr, parce bien que sûr. En particulier film, le Rhône, hein. On le voit à Pont-Saint-Esprit, on voit le pont, et ça défile dessous, oui.
Ah, exactement.
Exactement.
On rappelle d'ailleurs que tu as fait une vidéo, on la retrouve où?
La vidéo sur mon site randovttvideo.free.fr et puis sur le site Radio Galaxy à Bougeotte, aller chercher dans les émissions. Alors ici, une quantité surprenante de châteaux. Et je commence par vous amener un castrum, le castrum d'Allègre, les Fumades. Alors un castrum, c'est un lieu fortifié avec d'un côté le seigneur et de l'autre les chevaliers. C'est un castrum qui est vieux de 1000 ans. Le village des plus illustres chevaliers de la région. Un site immense, aux nombreux systèmes défensifs et lieux de vie. En 1211, un parchemin de Philippe Auguste indique que le château est partagé entre plusieurs co-seigneurs sous la suzeraineté de l'évêque d'Uzès. Au XIVe, ils seront jusqu'à 12 co-seigneurs à se le partager, tout en rendant hommage au seigneur du Gévaudan. Pendant la guerre de Cent Ans, le château est attaqué, saccagé plusieurs fois par les routiers. Puis la révolte des Tuchins, qui signera la fin. Alors les Tuchins, je vous explique, de 1367 à 1384, une série de révoltes contre les Anglais et leurs routiers, puis contre les impôts. Les bandes s'organisent autour d'un chef, et peu à peu elles se transforment en bandes de pillards, faisant régner la terreur. Le castrum sera abandonné au XVIe siècle, les seigneurs préférant les demeures plus confortables dans la plaine. Il restera cependant habité par quelques paysans, notamment une tour qui, elle, sera habitée encore en 1910. L'accès est libre et gratuit. Cependant, en mauvais état, il faut quand même profiter des éléments remarquables, une double enceinte, la tour maîtresse, un village, des tours, des maisons seigneuriales et une chapelle. J'ai droné. On voit les images sur ma vidéo, je vous le conseille.
Oui, exact, ouais, effectivement, je confirme.
Merci.
C'est beau.
C'est très beau, ça vaut le coup. Alors, un autre château, le château de Gicon à Chusclan. On ne voit que lui, au sommet de la colline boisée. Une piste vous conduira jusqu'à lui en auto. Il veille sur la vallée, comme tous les autres châteaux d'ailleurs de cette région. Une histoire peu commune. Sur un ancien oppidum celte, un castrum est construit. Au XIIe siècle, l'évêque d'Uzès le fera fortifier. Au XIIIe, il souffrira de la croisade des Albigeois. Au XIVe, ici aussi, les Tuchins dévastent le château. En 1631, le seigneur de Gicon s'oppose à Louis XIII. Richelieu ordonne sa destruction. Aujourd'hui, il est en partie restauré. Le site est la propriété de la cave coopérative de Chusclan. On peut le visiter à l'extérieur. On peut rentrer quand même dans les décalades romaines qui vous mèneront à une maison forte du XIVe, une chapelle du XIIIe, construite, elle, par les Chartres de Valbonne, et le tout ça sur des soubassements celtes. Une belle balade, un superbe point de vue, c'est gratuit, il faut en profiter.
Ça n'a rien à voir avec l'église troglodyte que l'on voit.
Alors, l'église troglodyte, On va en parler de cette église. C'est la chapelle de la Baume, de la Sainte-Baume. On en reparlera. Okay. Mais avant cela, je vais vous parler du castrum de Rochemaure, un donjon du XIIe, noir et blanc, en calcaire et en basalte. Ça domine le Rhône. C'est planté sur un dique qui permettait le contrôle du péage de la vallée. Le château formait, avec le village, un castrum. Il n'a jamais été pris, mais il sera abandonné au XVIIe siècle. Autre castrum de Saint-Montant et puis mon coup de cœur, le village de Saint-Montant. Un des plus beaux villages de France, de caractère. Un site médiéval du 5e au 15e siècle, dominé par une immense forteresse, réputée imprenable. Coligny s'empara du château avec son armée. Les protestants s'y installèrent. Certaines fortifications et d'autres constructions furent endommagées. À la Révolution, la forteresse fut vendue, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, elle terminera en carrière de pierre. Entièrement ruiné, le village était condamné au bulldozer. Mais il sera reconstitué, pierre après pierre, tel qu'il était au Moyen-Âge, grâce à la participation de plus de 20 000 bénévoles sur des chantiers de jeunesse. Des rues en calade s'élèvent entre les maisons, jusqu'à la forteresse. N'ayez pas peur de vous perdre, c'est toujours en montant. Au 5e siècle, un ermite, ayant vécu 30 ans dans une grotte près de la source, a donné son nom au village. Cette source aurait la propriété de guérir les fièvres. Ce village, c'est mon coup de cœur. Saint-Montant, magnifique, allez-y. D'autres vestiges. Une sorte de château cathare, à Saint-Vincent-la-Coste. Le Castellas y fut construit en 1125 par les seigneurs de Sabran et il attire la population qui s'installe au pied de lui, sur le versant nord de la colline. C'est le vieux village. Pendant la croisade des Albigeois, le comte de Sabran, connétable de Raymond VI de Toulouse, combat le roi de France, Louis VIII. C'est la défaite. Il doit demander pardon et faire allégeance, livrer le Castellas au sénéchal de Beaucaire qui détruira les fortifications. Il a été laissé à l'abandon pendant plusieurs siècles. Les ruines sont partiellement consolidées depuis peu par la commune. Tout ça, bien sûr, je vous le raconte. Allez voir ma vidéo, vous avez des images, vous les retrouverez parfaitement. Différent. Le camp César à Lautin, l'Ardoise. Au-delà du pont du Gard des arènes de Nîmes, voici une petite pépite méconnue. Un site archéologique de 18 hectares. Un oppidum gallo-romain, occupé sur 5 périodes successives, pendant 1000 ans, de l'âge de fer jusqu'au Moyen-Âge. Les vestiges ont mis à jour le forum, la basilique civile, les remparts, des habitats, et une nécropole. L'accès ici aussi est libre et gratuit. Tout au début, ce sont les Gaulois qui s'y étaient implantés en formant un village proche du Rhône, une voie de communication privilégiée. Ensuite, grâce aux voies romaines et en particulier la voie domitienne, une bourgade se forme. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains l'occuperont. On peut voir les vestiges de remparts, des tours de défense, de deux portes charretières et d'habitations. Le 1er siècle sera l'apogée de la ville. Un forum, un tribunal, une basilique viendront l'enrichir pendant plusieurs siècles encore. Ce lieu fut déserté vers la fin du VIe siècle. Encore autre chose, complètement différent. Un aqueduc bien peu visité. Ça ne date que du XIXe siècle, ce que je vais vous raconter. L'aqueduc à Loudun. À Loudun, il y a un grave problème d'approvisionnement en eau potable. Le choix se porte sur une source débitant 75 litres minute, même en période sèche. Un problème, cependant. Il faut juste franchir la vallée de la Balouvière. La construction d'un aqueduc s'impose. Il fera 62 mètres de long et 10 mètres de hauteur. Il n'est pas sans rappeler, en plus petit, celui d'Igard, distant de 30 km. Un petit patrimoine, tout proche, donc, à dénicher. L'aqueduc de Loudun.
On peut le voir sur ta vidéo.
Bien sûr.
Bien sûr.
On arrive à la fameuse chapelle dont tu me parlais au début. La chapelle de la Sainte-Baume de l'Irak. Dans une grotte, la Vierge apparut à un bûcheron en 1647, qui fut guéri de crises d'apoplexie dont il souffrait. Un premier miracle suffit par de nombreuses autres guérisons miraculeuses. Il fit le vœu de devenir ermite. Ce fut le premier puisque de nombreux se sont succédés jusqu'en 1905, date de la séparation de l'Église et de l'État. Je ne sais pas si ça a trop un rapport, mais enfin. À l'intérieur de la grotte, une chapelle fut aménagée au XVIIe siècle avec la statue de la Vierge. Ainsi, ce lieu est devenu un lieu de pèlerinage le lundi de Pâques et pour l'Assomption. Devant l'entrée naturelle, une construction fut bâtie en 1712, donnant un peu plus de confort aux ermites et protégeant la chapelle. Aujourd'hui encore, le pèlerinage attire chaque année beaucoup de monde. Le parking n'est pas assez grand. Alors, c'est encore un petit patrimoine, peu connu, qui vaut le coup, à l'Irak. Une histoire un peu extraordinaire, à Pont-Saint-Esprit, et son histoire mystérieuse de 1951. Pont-Saint-Esprit est symbolisé par le plus vieux pont sur le Rhône, daté de 800 ans. Fait de 20 arches, il mesure 1 km de long. Il en a vu passer beaucoup d'eau et des histoires de toutes les couleurs, magiques. Mais comment oublier cette histoire mystérieuse de 1951 qui n'est ni une légende ni du cinéma? Je vous explique. Maux de ventre, nausées, frissons, vomissements, les symptômes d'une intoxication de la population de Pont-Saint-Esprit, mais aucun point commun entre tous les malades. Puis, des hallucinations graves, délirantes, certaines personnes se jettent par les fenêtres. 300 intoxications, 50 internements, 7 morts seront recensés. C'est pas du baratin, c'est pas du bobard.
Ils ont fumé quelque chose, c'est pas possible.
Même pas. Apparemment, le seul point commun entre tous serait d'avoir mangé du pain. On évoque l'ergot du seigle, un champignon parasite qui aurait contaminé la farine, comme cela se passait au Moyen-Âge avec ce qu'on a appelé le feu de Saint-Antoine. Mais cette possibilité est écartée, les analyses n'ayant trouvé aucune trace d'ergot de seigle, ni dans la farine, ni dans le pain. Toutes les hypothèses sont abandonnées. Alors, tout y passe. On accuse l'eau, les machines modernes, les puissances étrangères, la SNCF, le diable, le pape. En 2009, un journaliste lancera la piste de la CIA et de l'armée américaine qui aurait, soi-disant, testé le LSD comme arme de guerre en pulvérisant sur un village cobaye. Aujourd'hui encore, il est impossible d'avoir une explication. Il reste encore des victimes et le mystère le plus total. La cause la plus probable serait l'utilisation d'une farine avariée qui aurait eu pour effet des crises d'ergotisme. Aurons-nous un jour l'explication? Mystère.
Mystère et boule de gomme.
Mystère et boule de gomme, voilà. Un site naturel remarquable maintenant. Les Concluses de Lussan, un ruisseau qui a creusé des gorges au pied de falaises et des marmites de géants. À visiter de préférence en période de basses eaux si on veut atteindre le fond de gorge, par le lit et atteindre le fameux portail, une sorte de goulet où passe l'eau. Alors, allez aussi tant que vous êtes là. Allez voir la pierre plantée, c'est un menhir de 5,60 m pour faire dévotion aux puissances divines. Et puis, allez au mégalithe, le dolmen de Champvermeil, commune de Bidon. C'est un des plus grands du département de l'Ardèche. Il fait 4,50 m par 3,10
m. Il n'y en avait qu'un, tu l'as trouvé.
Il n'y en a pas qu'un, parce qu'on est en Ardèche, qui est le deuxième département derrière l'Aveyron pour le nombre de dolmens. Ici, c'est quand même un des mieux conservés. Et il date de 2500 ans avant Jésus-Christ, une époque où l'homme occidental se sédentarise et débute l'élevage d'animaux, alors qu'en Égypte, on élève les pyramides. C'est pas pareil.
Il y a une grosse différence.
Voilà, à même époque. Encore un site à ne pas rater, les cascades du Sautadet à La Roque-sur-Cèze. Sautadet en occitan, ça veut dire saut de l'eau, donc cascade. La rivière bouillonne, elle s'engouffre dans de nombreuses cavités avec force. Nids de poules, gours, marmites de géants et autres chaudrons en cascade forment de dangereux remous courant tourbillon écumant, une curiosité absolument spectaculaire, un site naturel incontournable, baignade interdite et dangereuse, n'essayez pas, avec en plus un joli pont et un beau village, La Roque-sur-Cèze. Voilà. Pour terminer ce tour, une petite anecdote amusante à propos d'un beau village, le village d'Éguèze, un des plus beaux de France, qui d'un côté surplombe l'Ardèche et se tourne vers les vignes de l'autre côté. Mais l'anecdote n'a rien à voir avec cela. Il s'agit d'un canular de plaques dans certaines rues, celle d'un professeur d'expansiologie qui ne reçoit que sur rendez-vous. La seconde plaque en l'honneur d'Honoré Agrefoul, inventeur de l'absinthe. Ces personnages n'ont jamais existé. La troisième plaque indiquait un niveau de crue historique, plus haut que les remparts. Prise beaucoup trop au sérieux par certains, la plaque a été retirée. Un petit peu d'humour. Voilà. Alors pour terminer, eh bien, deux mots sur le VTT, parce que bon, là, vous verrez des images. Le VTT autour de Chusclan, c'est un village, l'occasion d'apprécier le vin nouveau, puisque le départ du village, où, là où le Rhône entre en Provence, un pays de garrigues où les chênes verts et les genévriers côtoient le thym, la lavande, où la vigne dialogue avec les vergers, les drailles, les chemins pierreux. Difficile de s'orienter sans un balisage judicieux. Le rêve pour un vététiste. Et le retour, après avoir traversé la cave viticole en vélo, au milieu des chais, on en ressort bien entendu, avec en souvenir une bouteille de Côte de Rhône en vin nouveau, à boire avec modération. Et puis, je terminerai en deux mots pour l'aquarelle d'Angline, qui, vous le savez, termine mon émission, ouais. Mais surtout termine ma vidéo, si vous avez la curiosité d'aller la voir. Nadine fait une aquarelle du château Gicon, dont nous avons parlé au tout début. Ça clôture, comme chaque fois, ma vidéo.
Tout à fait.
Eh bien, le mois prochain, je vous emmène dans l'Angoumois. Vous connaissez ?
Ouais. Quoi ? Comment ?
L'Angoumois, au cœur de la Charente, le pays d'Angoulême.
Ah.
Et nous ferons un petit tour sur la route d'un certain Richard, un Richard célèbre.
Richard Cœur de Lion.
Bravo !
Ouais.
Il a gagné une tringle à rideau.
Yeah.
En attendant, profitez de la belle saison pour bouger.
Mais bouger ?
En France surtout. Voilà.
Merci.
À bientôt.
Merci, Christian.